Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDOAS 107.5 FM. Je suis en compagnie de Françoise Girard qui vient pour la troisième fois après le 22 et le 30 avril nous parler du sort des Razettes dans le pays d'Iwa. Elle avait été interpellée par l'équipe éducative de Chabestan concernant le sort des Razettes. Donc elle est venue nous faire part des résultats de l'action de mobilisation qui est en cours pour tenter de maintenir ce poste d'enseignant spécialisé sur le secteur de Châtillon. Et nous avions convenu d'une troisième émission pour rendre compte de l'entretien qui a eu lieu le 16 mai avec le directeur d'Académie, Monsieur Bovier. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors les nouvelles sont-elles bonnes ?
Alors les nouvelles, on va rester optimiste, dire que c'est plutôt une ouverture, mais que ça reste mitigé, à savoir qu'il faut garder la vigilance quant à la réalisation de ce qui a été proposé. Ce que je me propose de faire, c'est de vous raconter donc comment s'est constituée la délégation, ce qui nous a été exposé par monsieur le directeur d'académie, les remarques qui ont été faites par les personnes présentes, et puis ensuite les réflexions que ça peut nous amener à avoir pour la suite de l'action qui n'est pas finie. Voilà.
Loin s'en faut apparemment.
Non, mais on va y arriver. Donc, on est allé le 16 mai à Valence. Monsieur le directeur d'académie, Monsieur Bovier, avait invité Monsieur Matron, vice-président du conseil général chargé à l'éducation et conseiller général du canton de Châtillon, à le rencontrer en compagnie, avait-il dit, des enseignants et parents qu'il souhaitait. Il y avait donc pour l'accompagner deux enseignantes de Châtillon, particulièrement concernées puisque c'est le poste Razettes de Châtillon qui est menacé de disparition et qui cette année n'était déjà plus opérationnel puisque l'enseignante spécialisée était en maladie. Donc on a pu déjà voir cette année ce que ça posait comme problème. Donc il y avait ces deux enseignantes de Châtillon, il y avait deux parents d'élèves de Châtillon qui sont également élus municipaux sur les communes de Châtillon et Minglon. Il y avait Lionel Lérondel qui est maire de Beaumont et moi-même parent d'élèves de Chabestan pour représenter le secteur de Die. Donc on est allé tous ensemble rencontrer monsieur le directeur d'académie qui était lui-même accompagné de madame Sirier qui est l'inspectrice éducation nationale du secteur de Cré, donc c'est le secteur dont dépend le DIWA, ainsi que monsieur Hommage qui est l'inspecteur adjoint de monsieur Bovier. On a été reçus pendant un peu plus d'une heure. Alors c'est toujours assez déstabilisant, enfin toujours justement pour moi c'était la première fois Voilà, on ne sait pas jusqu'où il y a du protocole ou pas. En tout cas, on va dire que ce n'est pas un endroit où on se sent particulièrement à l'aise pour débattre. On écoute. On a écouté donc Monsieur Bovier nous expliquer longuement comment il s'y était pris pour répartir les postes de remplaçants. On se demandait pendant ce temps-là pourquoi il nous parlait de ça, parce que ce n'était pas exactement le sujet, mais visiblement, pour lui, c'était important de nous donner ce type d'explication, qu'il a ensuite comparé à la méthode qu'il a appliquée par rapport aux enseignants Razettes. Et il a terminé en nous disant que de toute façon, lui étant fonctionnaire et n'étant pas élu, il faisait ce qu'on lui disait de faire et que voilà, il avait simplement appliqué les réductions de postes telles qu'elles avaient été préconisées au plus haut. Il a ensuite passé le relais à ses deux accompagnateurs, donc Monsieur Hommage et Madame Sirier, qui nous ont expliqué que les écoles rurales allaient plutôt bien, que c'était une chance d'être en secteur rural, que les résultats des enfants de la zone rurale étaient bien meilleurs que les résultats des autres zones considérées fragiles. Alors évidemment, là je fais une mise au point, il n'a jamais été question pour nous d'aller leur demander d'enlever des postes dans les zones d'éducation prioritaire urbaine pour venir les mettre dans le DIWA, hein. C'est pas le but du tout. On a bien conscience qu'il y a des urgences et des priorités partout. Mais la demande précise, c'était de tenir compte de l'éloignement géographique spécifique au DIWA. Donc, ils nous ont expliqué que comme les résultats des écoles rurales étaient plutôt meilleurs, ils avaient décidé que c'était un endroit qui n'était pas prioritaire. Madame Sirier nous a expliqué aussi que de toute façon, l'aide des Razettes, c'était très, je ne sais plus quel mot elle employait, pas aléatoire, mais que bon, rien n'était prouvé que ça soit efficace. Et puis que de toute façon, un élève sorti de sa classe pour aller travailler tout seul avec un enseignant, ça n'avait pas de sens parce qu'après, l'élève revenait en classe et était perdu. Alors, on a été assez interpellés par ça parce que justement, la spécificité des gens du Razettes, c'est de prendre la particularité de l'élève pour le faire travailler à part, pour que justement, quand il revient en classe, il se sente mieux dans le groupe classe qui est pour lui un moment difficile. Elle a eu l'air de ne pas être au fait des progrès que permettaient de faire les enseignants Razettes. Donc ça nous a quand même interpellés fortement. Voilà, donc en gros, ils nous ont expliqué que ils avaient fait comme ils pouvaient et que de toute façon, elles s'engageaient pour la rentrée prochaine à répartir en fonction des besoins, mais que continuerait à y avoir des aides, simplement les enseignants ne travailleraient plus de la même façon, que les gens du RAZ viendraient observer les classes et parleraient avec les enseignants des difficultés, mais qu'il n'y aurait plus d'intervention en direction des élèves. Ensuite, nous parents, on a quand même relaté le quotidien vécu par les élèves dans le DIWA par rapport aux élèves qui sont en difficulté. Alors, on a essayé de bien recadrer parce que, bien sûr que dans l'ensemble, les écoles vont peut-être bien, que c'est sûrement une chance d'avoir des classes uniques dans les secteurs reculés et que c'est une... D'ailleurs, on se demande pourquoi tout le monde ne vient pas dans le DIWA. Mais on a quand même dit, mais nous, on vous parle des enfants en difficulté. Donc, c'est sur ces enfants-là qu'il y a souci. Quand vous avez un enfant en difficulté et que l'enseignant spécialisé ou le psychologue est à 70 km, vous appelez pas le psychologue aussi facilement que quand vous savez qu'il est dans une zone plus accessible. Donc, on a vraiment essayé de recentrer sur ça. Il y a une maman parmi nous qui a pu témoigner de son expérience personnelle. Elle a eu un enfant qui a été suivi par le RAZ et ça s'est avéré efficace. Cette année, un autre enfant qui avait des difficultés, l'enfant n'ayant pas de personnel RAZ ressources sur le secteur, a été suivi en externe avec une orthophoniste et le soir en aide personnalisée, c'est-à-dire après l'école. Donc là aussi, c'est externalisation de l'aide. Et au bout de l'année, résultat très peu tangible. Monsieur Hommage nous a rétorqué, rien ne nous prouve que s'il y avait eu le RAZ, ça se serait mieux passé. Alors évidemment, mais rien ne nous prouve le contraire non plus. Donc nous, ce qu'on déplore, c'est que par rapport à la difficulté scolaire qui est en grande partie, maintenant il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, qui est engendrée par l'école elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des explications diverses, variées, il y a des inégalités sociales, soit, mais il y a quand même l'école elle-même crée de la difficulté scolaire. Et jusqu'à présent, ce merveilleux outil qui avait été mis au point d'abord par la création des GAP en 1970 et ensuite en 1990 par les RAZ, c'était un outil qui arrivait à remédier de l'intérieur aux difficultés engendrées par l'école. Donc l'école possédait, on va dire, en elle-même son contrepoison. Actuellement, avec la disparition des RAZ qui est en route et qui est toujours pas stoppée, bon, sauf qu'on a quand même eu des espoirs récents, ce qui se passe, c'est que le remède, il faut aller le chercher à l'extérieur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire du temps en plus, des spécialistes de partout. Hein. D'ailleurs, il a été remarqué qu'il y avait foisonnement de spécialités autour de l'école. On reconnaît tous que la moitié du public, de grand nombre de thérapeutes dans le coin, c'est un public scolaire. Or, il y a sûrement des fois où c'est nécessaire, mais il y a des fois où c'est là parce qu'à l'intérieur de l'école, les structures n'existent plus.
On s'oriente vers une privatisation du soutien scolaire, là.
Voilà, complètement. Et surtout, on ne fait plus la différence entre ce qui est rattrapable et ce qui ne l'est pas. Donc, ça externalise les soins et puis ça les stigmatise, je dirais. Parce qu'une intervention de RAZ en prévention, par exemple, ça éviterait sûrement beaucoup de dégâts par la suite qui deviennent importants, récurrents et donc qui s'installent et qui, après, font qu'il y a des difficultés qui deviennent repérées et l'enfance les colle sur le dos toute sa scolarité quasiment. Donc, par ailleurs, on était aussi très étonnés de la remarque de Madame Sirier et de Monsieur Hommage qui nous ont dit tous deux que rien prouvait que les RAZ c'était efficace, que c'était très discutable, etc. Donc non seulement on était étonnés, déjà on s'est dit qu'ils n'avaient pas vu le film, sûrement, mais on était étonnés que par exemple, il y a des études qui ont été faites, puisque c'est une critique qui a été faite aux RAZ depuis longtemps, ça, c'est que ça ne sert à rien. Bon, même à l'intérieur de l'éducation nationale, il y a des enseignants qui ne connaissant pas leur travail peuvent percevoir ça comme un travail un peu privilégié. On l'avait évoqué la dernière fois, où ils travaillent avec un enfant ou un tout petit groupe d'enfants sur des modes qui font que la relation est plutôt agréable. Ils n'ont pas le quotidien, pas toujours facile, des enseignants qui ont une classe entière. Mais par rapport à ces critiques-là, il y a quand même des études qui ont été faites très pointues. Moi, j'ai avec moi un rapport de recherche qui avait été fait par rapport à une étude comparative entre les évaluations de résultats de l'aide personnalisée à l'élève, c'est-à-dire ce que font les enseignants après l'école, donc soit le midi après la classe, soit le soir. Hein, c'est 2 heures par semaine là, pour tous les enfants. Donc, une aide comparative de cette aide personnalisée qui, je le rappelle, a quand même été mise en place dans le même temps qu'il y a eu la suppression des RAZ qui s'est amorcée. Et comparé à l'aide spécialisée à l'enfant proposée par les RAZ. Mais je veux dire, le rapport, il est imparable. Donc c'est un rapport qui a été fait par le GEDRAS, le groupe de recherche sur l'aide spécialisée qui est intégré au Master 2 de l'Université Paris-Descartes, qui date quand même de octobre 2009, puisque l'étude elle a eu lieu de janvier à octobre 2009. Et dans la conclusion de ce rapport, ils ont mesuré, hein, ils ont vraiment mesuré avec plein de critères différents, ils ont croisé, ils ont vraiment comparé, ils se sont servis des enseignants qui pratiquaient l'aide personnalisée. Enfin, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait très méthodique. Il apparaît que l'aide personnalisée permet à 20% des enfants en difficulté de rattraper, on va dire, le rythme scolaire de toute la classe. Donc ça s'apparente vraiment à du rattrapage scolaire. Par contre, l'aide spécialisée à dominante rééducative, c'est-à-dire celle qui est prise en charge par les RASED et qui s'intéresse à la personne globale de l'enfant qui intervient par rapport à sa vie privée, sociale et scolaire, mais qui est faite au sein de l'école gratuitement, cette aide-là, elle est efficace dans tous les autres cas, c'est-à-dire à 80%. Alors, ça n'empêche pas que cette aide, elle peut être encore améliorée. Ils ont bien sûr constaté qu'il fallait harmoniser les compétences scolaires et cognitives de l'enfant, qu'il fallait harmoniser le travail fait en lien avec les familles, pour que la prévention des difficultés et l'amélioration du nombre de difficultés d'adaptation diminuent. Ils ont aussi constaté qu'il y avait des outils peut-être plus performants à inventer. N'empêche que l'aide personnalisée, elle est utile aux élèves qui ont des difficultés scolaires et d'apprentissage isolés et que dans tous les autres cas, l'aide spécialisée s'avère beaucoup plus indiquée, donc plus efficace. Alors, on était d'autant plus étonnés d'entendre ces propos dans la bouche de l'IEN et de l'inspecteur adjoint, parce que c'était en complète contradiction, en dehors du fait que visiblement ne tenait pas compte des résultats de cette étude. Alors, peut-on croire que ces gens-là ne connaissent pas l'existence de cette étude? On va dire oui.
C'est possible, hein.
Par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'était Luc Chatel, donc l'ancien ministre d'Éducation nationale, avait donné un objectif clair de personnalisation des parcours scolaires. Déjà, ça, c'est en suppression complète avec la suppression des postes RASED. Actuellement, donc pour avancer un peu plus dans ce qu'on a obtenu au sujet de cette entrevue, actuellement, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a quand même affiché des priorités claires et qui a bien parlé de s'occuper au niveau de l'école des secteurs ZEP, enfin maintenant ça s'appelle plus des ZEP, mais des zones d'éducation prioritaire et du milieu rural. Donc le ministre ayant déclaré ces choses, ayant également dit qu'il y avait quand même 1000 postes qui allaient être mis à disposition, notre demande claire qui a été reformulée à monsieur le directeur d'académie, et c'est Alain Matron qui en a refait la synthèse, c'est: à partir du moment où ces aides vont être distribuées, on peut espérer qu'il y en aura sur l'académie. Et à ce moment-là, on lui demande de ne pas oublier le DIWA qui, de par sa situation géographique, je le répète, est particulièrement défavorisé. Même si le nombre d'enfants en difficulté n'explose pas. Comment fait un enseignant d'une zone reculée qui a pendant 4 ans de suite des difficultés avec un élève et qui n'a d'autres ressources que lui-même et le groupe classe pour s'en sortir? Alors c'est bien beau les classes uniques et les zones rurales où l'enseignant connaît l'enfant pendant 4 ans, mais quand l'enseignant bute pendant 4 ans de suite sur une difficulté avec un enfant dont il ne peut pas sortir, s'il n'y a pas intervention d'un spécialiste au sein de l'école, ça veut dire pour les parents, soit ils déménagent pour être plus près des lieux de service, soit c'est une vraie galère pour la scolarité de l'enfant, quoi. Voilà. Donc, en conclusion, c'est ce qui a été redit à monsieur le directeur d'académie. On est arrivé là avec quand même plus de 500 signatures du DIWA. Et on avait par ailleurs 313 signatures qui nous venaient du secteur de Romans parce que suite à la mobilisation qu'on a opérée, ça nous a amené à nous mettre en lien avec les combats menés un peu partout au niveau de la Drôme, de l'Ardèche et au niveau même national. Et donc, on est particulièrement en lien avec le secteur de Romans, qui avait de son côté fait des pétitions. Donc on est quand même arrivé avec plus de 800 signatures dans le bureau de monsieur Bouvier, en espérant qu'ils auront bien compris, lui-même et ses deux collègues, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont attachées à l'avenir de RASED et que tout le monde est quand même suspendu au fait qu'il s'est engagé à se battre pour préserver un poste dans le DIWA. Donc voilà, on est tous vigilants sur l'issue de cette histoire.
Donc en fait, rien n'est définitif.
Rien n'est définitif. Alors, encore une fois, monsieur Bouvier, qui est un monsieur très, très cordial, très compréhensif. Après, il a le raisonnement qu'il a et on peut le comprendre parce qu'il a le poste qu'il a et que ben, forcément, il a ses chiffres et puis il fait en fonction de ce qu'il a. Oui, monsieur Bouvier donc, s'est engagé oralement, verbalement, à évidemment tâcher de défendre si des postes sont réattribués sur la Drôme, à en réserver un sur le DIWA. Simplement, c'est un engagement oral qu'il a pris devant nous comme ça. Après, évidemment, il ne peut pas s'avancer plus que ça, puisqu'on était le 16 mai, c'est-à-dire enfin, le lendemain du premier Conseil des ministres. Il faut quand même laisser du temps au temps. Et il y a tellement d'urgence et de priorité que, bah oui, il ne pouvait pas s'engager plus que ça, puisque lui-même, il n'avait pas assez d'éléments tangibles sur lesquels s'appuyer. Donc, voilà, nous, ce sur quoi on doit continuer à être vigilant, c'est qu'il a bien entendu la mobilisation qui existe dans le DIWA par rapport à ça, qu'ils ont bien compris qu'on est très aux aguets par rapport à ce qui va être proposé à la rentrée prochaine et que, du coup, bah, les gens se remobiliseront en conséquence s'il n'y avait pas satisfaction de ce point de vue-là.
Alors, comme tu le disais, il est trop tôt pour avoir des nouvelles de la nouvelle équipe dirigeante.
Complètement, voilà. D'autant que l'inspectrice, l'IEN, part sur un autre secteur à la rentrée prochaine. Donc, elle a préparé la rentrée d'une certaine manière, avec le nombre de postes qui lui avaient été attribués. Évidemment que ça va être repris par quelqu'un d'autre et que si les moyens sont différents, on espère que la répartition sera différente. Mais on ne peut rien affirmer, effectivement. Il faut être très patient.
Tout à fait.
Vigilant.
Et ne pas lâcher le morceau.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, ne lâchons pas le morceau. Tu es, comme d'habitude, la bienvenue pour complémenter cette série d'émissions sur Razed. Au cas où tu aurais du nouveau, nous t'accueillons.
Merci.
Avec joie.
Je souhaite qu'à la rentrée prochaine, d'autres personnes fassent le relais sur l'histoire.
D'accord. Bah, sentez-vous chez vous.
Donc, venez, on est bien à la radio. On est bien à RDIWA.
Très bien. Bah, merci, Françoise. Et puis, donc, bonne continuation dans ce combat.
Au revoir, Louis. Merci.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.